Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bienvenue à tous dans le débat du jour sur RFI. Il y a 2 ans pile, le 7 mai 2017, un jeune homme de 39 ans entrait à l'Élysée, un quasi inconnu de la vie politique quelques mois auparavant. Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 66% des voix face à la candidate du Front National, Marine Le Pen. Le soir de son élection au cœur de Paris, sur le parvis du Louvre avec la pyramide en arrière-plan et devant ses partisans, Emmanuel Macron prononce ses premiers mots sur la tâche qui lui incombe.
De moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent. Parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous.
Alors, passé comme beaucoup de ses prédécesseurs, des parfums enivrants de la victoire aux senteurs plus âcres des gaz lacrymogènes, après tout juste 2 ans de pouvoir, ses engagements sont-ils tenus, abandonnés ou encore à tenir? Avant d'en débattre avec nos invités, je citerai ses engagements tenus. Supprimer l'ISF, instaurer une nouvelle législation antiterroriste, réduire les cotisations sociales des employeurs, rétablir l'exonération des heures supplémentaires, supprimer la réserve parlementaire ou encore lancer un service national universel. Et pour en parler en studio, Marc-Olivier Padis, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des études de Terra Nova, un cercle de réflexion. Vous vous situez où sur l'échiquier politique?
Nous sommes indépendants et progressistes.
Plutôt de gauche.
Centre-gauche, oui.
Et par téléphone, Monique Pinson-Charlot, sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut de recherche sur les sociétés contemporaines. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes co-auteur avec Michel Pinson, le président des ultra-riches, chronique du mépris de la classe politique d'Emmanuel Macron. Première question en guise d'introduction. Après 2 ans pile d'exercice du pouvoir pour Emmanuel Macron, Marc-Olivier Padis, quelle serait votre définition du macronisme?
Oui, c'est difficile de dire que Emmanuel Macron a réussi à définir lui-même en fait sa politique. Je dirais il y avait 3 grands éléments dans les promesses de sa campagne, ce que vous avez un peu rappelé. Il y avait le renouvellement démocratique, l'ambition européenne et puis une sorte de pragmatisme économique. Alors le renouvellement démocratique, on en a eu des éléments, mais aussi avec une pratique du pouvoir finalement qui s'est moulée dans les institutions de la Ve République très classique. L'ambition européenne, elle a un peu buté sur l'absence de partenaires européens. Et donc, il reste quand même beaucoup du pragmatisme économique.
Et vous, même question, Monique Pinson-Charlot, quel serait le macronisme pour vous après 2 ans de pouvoir?
Ben écoutez, c'est toujours, et encore pire, l'ultra-capitalisme, le néolibéralisme dans toute son horreur pour moi, et l'oligarchisme poussé à son extrême. Voilà ce que c'est pour moi le macronisme aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut tout de même, en tout cas, lui reconnaître aujourd'hui d'avoir gardé le cap de sa politique, comme il avait été initialement élu?
Ah ça, absolument. Alors c'est très intéressant que vous utilisiez cette expression, le cap, parce que c'est précisément l'expression qui est utilisée par les responsables néolibéraux de cette planète, le cap. Et donc Emmanuel Macron a parfaitement tenu son cap, c'est-à-dire favoriser les plus riches, détruire les services publics, détruire tout ce qui concerne la solidarité, détruire les quelques petits avantages qui demeuraient des classes moyennes et des classes populaires. C'est-à-dire que c'est une casse sans précédent qui s'est passée en 2 ans et dans des conditions pas du tout démocratiques. Parce que contrairement le renouvellement de la démocratie, on a eu droit aux ordonnances, on a eu droit à des lois scélérates concernant la condamnation, la répression des gilets jaunes. On a eu droit à toutes sortes de lois qui n'étaient pas vraiment démocratiques, qui étaient prises dans des conditions d'autoritarisme.
Marc-Olivier Padis, vous partagez les propos de Monique Pinson-Charlot?
Non, pas tout à fait. Je dirais les services publics français, fort heureusement, sont quand même assez solides, notamment parce qu'il y a une fonction publique qui est dédiée à son travail, qui croit à son travail. Je dirais surtout qu'en fait, l'axe politique, enfin ou la logique de l'action du gouvernement, c'était de favoriser les actifs, le retour au travail par rapport aux autres situations. Et c'est vrai que les retraités, notamment, ont été beaucoup mis à contribution. C'est vrai aussi que la suppression de l'ISF a beaucoup favorisé le 1% le plus riche. Mais il y a eu des mesures d'équilibrage, la suppression de la taxe d'habitation, une vraie politique par rapport à la formation professionnelle, par rapport à la négociation sociale. Donc tout ça avec un style de présidence jupitérien qui ne correspondait pas à une campagne qui était plus verticale et participative, ça a disparu. Mais je dirais, bon, il y a quand même une logique d'ensemble qui s'inscrit dans une certaine continuité politique française.
Monique Pinson-Charlot.
Bah écoutez, donc on est d'accord sur la continuité, simplement peut-être qu'on ne présente pas les choses de la même façon. Et donc je trouve que quand tout à l'heure M. Padis a dit que Terra Nova c'était indépendant, je sais pas, moi je trouve je le sens très proche d'Emmanuel Macron, en tout cas quand il parle, quand vous parlez, monsieur.
Oui, mais ça, c'est nous, on fait des propositions politiques et elles peuvent être après, elles ont des échos qui sont faits. Je veux dire, mais on a notre propre agenda. Après, ça ne nous aveugle pas et ça ne nous ça ne nous dispense pas d'avoir un jugement politique. Moi, je pense assez nuancé.
N'est-ce pas tout à son honneur de garder le cap, si j'ose dire, un président doit-il dévier sa trajectoire au cours du mandat au risque peut-être qu'on lui reproche d'alimenter l'idée selon laquelle les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses.
Mais là, dans la, justement, on est dans un moment d'interrogation qui est ouverte, c'est-à-dire il y a une volonté affichée par le président de la République de changer de style. Et c'est vrai. Alors ça veut dire, est-ce qu'il est capable d'entendre le message qui est porté notamment par les Gilets jaunes, mais on sent de toute façon une espèce d'insatisfaction plus large aussi des partenaires sociaux et des collectivités locales, même du Parlement qui est trop peu valorisé. Et donc Emmanuel Macron dit qu'il veut maintenant changer de style, retourner vers plus de négociations, et ce serait une bonne chose parce que ça a beaucoup manqué, notamment les partenaires sociaux n'ont pas été assez sollicités dans la période passée. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est capable effectivement d'entendre et de corriger un certain nombre de pratiques qui ont été faites depuis 2 ans.
Monique Pinson-Charlot.
Oui, écoutez, on a quand même eu l'allocution du 10 décembre, on n'a pas été déçus, et on a eu la conférence de presse du 25 avril, et honnêtement, il ne change pas, il dit que tout ce qu'il avait décidé dès le départ était la bonne politique, que donc la suppression de l'ISF c'était très bien, que, alors il ne parle jamais, et d'ailleurs vous monsieur Padis, vous n'en avez pas encore parlé, de la flat tax, ce nouvel impôt forfaitaire sur les revenus du capital, dont la tranche d'impôt, le montant des impôts, pardon, je m'exprime pas bien, est de 12,8%, c'est-à-dire inférieur à l'imposition de fait de la première tranche des salariés à 14%. Donc est-ce que vous vous rendez compte, et ça on n'en parle jamais tellement dans la presse, que Bernard Arnault, quand il paye ses impôts qui sont pas dans les paradis fiscaux, eh bien ses dividendes en centaines de millions d'euros seront, grâce à Emmanuel Macron, imposés à 12,8%, de la même façon que le pauvre petit actionnaire, beaucoup plus pauvre. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même une révolution néoconservatrice totalement incroyable. Et voilà. Et après, on parle d'audace, on parle de, je sais pas, de quel mot vous avez employé, de voilà.
Non, mais moi, ça, je suis complètement d'accord sur le fait sur la flat tax. J'ai oui. dit que tout à fait, c'est ce qui explique que les 1% les plus riches sont.
Vous l'avez dit au sujet de l'ISF, Marc-Olivier.
Oui, j'ai dit ISF, mais je rajoute très volontiers la flat tax. C'est oui. tout à fait exact. Non, je dis simplement que dans les mesures mesures récentes qui ont été proposées, présentées dans les deux conférences de presse que vous avez mentionnées, ça veut dire plus 18 milliards de dépenses publiques qui vont retourner vers les ménages, et donc c'est pas tout à fait négligeable, vers les petites retraites, vers les actifs. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qui sont pas négligeables, mais c'est vrai que le sentiment général est celui d'un déséquilibre, et ça c'est plutôt effectivement l'échec d'Emmanuel Macron, c'est que il présente des petites mesures qui ne sont pas lisibles, et donc il tombe sous cette critique finalement d'être très classique dans son approche de l'économie.
Écoutez, moi alors je pense que c'est lisible, parce que vous-même, quand vous dites qu'il va y avoir 18 milliards de coûts des mesures qu'a annoncé Emmanuel Macron, et que ça va retourner donc aux ménages et aux personnes qui sont justes pour finir leur fin de mois, ben c'est faux, parce que ces dépenses-là doivent être financées par plus de travail et la réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire la réduction des services publics. Donc si vous voulez, les travailleurs, ils vont pas s'y retrouver, parce que les services de santé, ils devront du coup aller vers le privé. Vous voyez, ils sont perdants toute la ligne. Et ce que je reproche beaucoup à Emmanuel Macron, mais vous avez pas l'air du tout de tomber dans ce travers-là, et je vous en suis reconnaissante, c'est que il manipule, si vous voulez, les revendications des travailleurs, l'humain d'abord, on veut payer moins d'impôts, mais en réalité, quand les gilets jaunes disent ça, ils veulent la justice fiscale. Ah, vous voulez payer moins d'impôts, mais vous allez moins en payer, mais du coup, vous travaillerez plus et vous aurez moins de services publics. Donc, finalement, les travailleurs, les ouvriers, les gilets jaunes aujourd'hui, ben, ils sont toujours perdants.
Alors, au cours de ces deux premières années à la tête de la France, notons parmi ses proches quelques démissions symboliques, voire historiques, celle de Nicolas Hulot, Gérard Collomb, exode aussi massif de ses conseillers, notamment son conseiller spécial Ismaël Emelien. Serait-il esselé? Et finalement, la politique, le macronisme, n'est-ce pas gouverné seul, d'après vous, Marc-Olivier Padis?
Mais c'est vrai que c'est un peu le contraste par rapport à une campagne électorale qui misait beaucoup sur la participation, sur le fait d'avoir créé un nouveau mouvement politique, d'avoir interrogé les Français, d'avoir fait du porte-à-porte, et donc ça donnait l'impression que le style politique serait renouvelé. Et effectivement, on se retrouve avec finalement une équipe très réduite, avec la promotion finalement des gens qui étaient auprès de lui dès le départ, une difficulté à valoriser des nouveaux profils, des ministres qui restent un peu dans l'ombre, le Parlement, je disais, qui n'est pas mis à sa vraie valeur. Et donc, tout ça est resserré autour du président de la République. Mais il s'est coulé, ou il a amplifié, si on veut, les défauts de la Ve République, et qui étaient déjà des difficultés qu'on voyait avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc, il n'a pas trouvé cette manière de gouverner qui démocratise les institutions françaises, la tout converge vers une seule figure, vers le président, et bien sûr, évidemment, tous les reproches du coup tombent sur lui.
Alors, y a-t-il une fatalité présidentielle pour vous, Monique Pinson-Charlot?
Ben, c'est-à-dire que là, dans le cas d'Emmanuel Macron, il est, si vous voulez, il est piégé, il est tenu pieds et poings liés par les riches donateurs qui ont financé sa campagne électorale et qui l'ont donc placé à l'Élysée, il y a donc maintenant 2 ans. Et du coup, il a pas une marge de manœuvre si grande que ça. Quand il est arrivé à attraper Nicolas Hulot en lui donnant l'illusion qu'il allait pouvoir faire quelque chose, en réalité, il ne peut pas. Et je vais vous donner un exemple. Emmanuel Macron avait dit qu'il supprimerait l'ISF en 2019. Ça devait rentrer en vigueur en 2019, le 1er janvier 2019. Et puis, les riches donateurs lui ont dit « Non, mais ça va pas, nous, on vous a donné beaucoup d'argent, ou on t'a donné beaucoup d'argent, nous, il faut rendre l'ascenseur au plus vite, parce qu'on sait très bien que dans un an, il va y avoir le mécontentement, nous, il faut que ça fonctionne, la suppression de l'ISF, à partir du 1er janvier 2018. » Donc voilà, c'est un exemple, si vous voulez, qui montre qu'Emmanuel Macron n'est absolument pas libre de ses faits et gestes, du tout. les pieds et poings liés avec les riches donateurs qui l'ont placé à l'Élysée.
Un mot avec vous sur son rôle à l'international. C'est aussi un des rôles du chef de l'État. Beaucoup de voyages à l'étranger, notamment en Afrique en début de mandat. Sénégal, Tchad, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, plus récemment Éthiopie, Djibouti, Kenya. Il a aussi reçu de nombreux présidents. Très vite, on se souvient de Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping. Comment analysez-vous sa stature internationale? Et s'il y a moins de déplacements en ce moment, est-ce que vous pensez qu'il se recentre davantage sur la politique nationale avec vous, Marc-Olivier Padis?
Mais en fait, l'ambition affichée d'Emmanuel Macron au départ, c'était d'abord l'Europe. Il voulait redonner une place à la France en Europe et puis surtout redonner une ambition européenne. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé de partenaire pour mener sa politique au niveau européen. Et donc, finalement, il a fait des propositions, des grands discours, mais il s'est retrouvé un peu seul et sans réponse, en particulier parce que l'Allemagne n'est pas dans la bonne séquence politique par rapport à la France. Et après, il y a eu effectivement ce grand discours en fait contre Trump, la position contre Trump, les engagements sur le climat. Mais là, on attend de voir de vrais changements. Il faut dire aussi qu'il y a une grande continuité avec Le Drian qui est resté finalement, qui était quand même qui est une personnalité
ancien
très forte.
Ancien ministre sous François Hollande.
Voilà, ministre sous François Hollande, ministre de la Défense qui est maintenant aux Affaires étrangères. Et donc, on voit bien qu'il y a une continuité très, très forte de ce point de vue-là de la politique.
Vous pouvez lui reconnaître sa stature à l'international, Monique Pinson-Charlot ?
C'est-à-dire que je lui reconnaîtrais une diplomatie économique tout à fait importante, c'est-à-dire qu'en Afrique, il s'agit avant tout de préserver les intérêts économiques de la France, des multinationales comme Total, Areva, et surtout de faire en sorte que les migrants restent en Afrique et que ce soit les Africains qui désormais gère le problème de la misère en Afrique, qui pourtant, dont la seule cause est le pillage des pays du Nord, dont la France. Et donc, si vous voulez, c'est une diplomatie qui, pour moi, ne vole pas haut, n'attire pas, disons, ma sympathie de la même façon que les ventes d'armes dans les pays du Golfe, alors que les droits de l'homme et la démocratie sont particulièrement bafoués. Voilà, tout, et que le niveau de vente d'armes n'a fait qu'augmenter depuis 2 ans. Voilà pour moi ce que j'aurais à dire sur la diplomatie économique d'Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian, puisque vous l'avez souligné, qu'il était dans la continuité avec le quinquennat de François Hollande.
Marc-Olivier Padis.
Oui, alors Emmanuel Macron a senti aussi qu'il y avait des pays en Afrique qui sont en phase de décollage et donc qui connaissent un développement économique et donc qui deviennent des partenaires et des interlocuteurs. On ne reste plus strictement dans les anciennes relations. Mais c'est vrai par ailleurs que la France est très en deçà de ses engagements en ce qui concerne la politique de l'asile, puisque finalement, après avoir fait campagne en disant que Angela Merkel avait sauvé l'honneur de l'Europe, finalement la France reste dans une position assez égoïste sur la question de l'accueil des réfugiés et ne parvient pas à trouver une solution à l'échelle européenne pour équilibrer un peu la politique entre les différents pays, notamment ceux de ce qu'on appelle de première arrivée et puis les pays de deuxième rang.
En guise de conclusion, Monique Pinson-Charlot, sociologue, les affaires Benalla et notamment le mouvement des Gilets jaunes, deux épines dans le pied du président, voire peut-être deux boulets qu'il va traîner, pensez-vous, jusqu'à la fin de son mandat?
Oui, parce que c'est plus que des boulets, ce sont des révélateurs de la vraie politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même, je veux dire, au niveau de la communication, il est quand même, c'est un prestidigitateur remarquable. Mais la réalité de sa politique, qui est une réalité totalement, une politique totalement conservatrice, c'est le grand bond en arrière, alors qu'on nous avait annoncé une grande marche en avant. Et donc, c'est pas des boulets, c'est des révélateurs. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres révélateurs, parce que sincèrement, la colère dans notre pays, 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron, est énorme.
Merci.
Et elle est déterminée. et elle est forte.
Merci beaucoup. Même question, Marc-Olivier Padis, en quelques secondes.
Oui, non, je crois que je mettrais plutôt l'accent sur la difficulté exprimée par les Gilets jaunes et surtout la difficulté à trouver une sortie par le haut de cette crise. Là, on voit les limites de la stratégie.
Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat en direct. Demain, il sera question de l'Afrique du Sud et de ses élections générales. L'Afrique du Sud en a-t-elle fini avec ses démons ?